Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Jean Wirth de l'Université de Genève.
Pour le grand traité de liturgie, à partir de la fin du XIIIe siècle et pour plusieurs siècles, est celui de Guillaume Durand, le Rationale Divinorum Officiorum, et il fait complètement autorité. Au chapitre 3 du premier livre, il fait une énumération des thèmes iconographiques de l'art chrétien. Et cette énumération se termine au chapitre 22 par la phrase suivante. « Sed et diverse historietam novi quam veteris testamenti pro voluntate pictorum depinguntur, nam pictoribus atque poetis, quelibet audendi, semper fuit equa potestas. » Ce que je traduis, mais on peint aussi diverses histoires, tant du Nouveau que de l'Ancien Testament, au gré des peintres, car les peintres et les poètes ont toujours eu un égal pouvoir de tout oser. C'est à peu près là l'exact contraire de ce qu'on raconte sur l'art médiéval, sur l'image médiévale, depuis Émile Malle, donc depuis plus d'un siècle. Les artistes seraient les exécutants fidèles de la pensée des théologiens et n'auraient en somme aucune initiative. À ma connaissance, deux historiens ont saisi l'importance de ce texte. D'abord, Rudolf Berliner, qui écrit en 1945 un article intitulé « The Freedom of Medieval Art », et mon maître André Chastel, qui écrit en 1977 le Dictum Oratii Quidlibet Audendi Potestas et les artistes, 13e, 16e siècle. En effet, on appelle cette formule Pictoribus atque poetis quidlibet Audendi Potestas, per fuit equa potestas, le Dictum Oratii. Alors, de quoi s'agit-il? Bien du début de l'art poétique d'Horace. Je vous le lis plus intégralement. Supposez qu'un peintre ait l'idée d'ajuster à une tête d'homme un cou de cheval et de recouvrir ensuite de plumes multicolores le reste du corps, composé d'éléments hétérogènes, si bien qu'un beau buste de femme se terminerait en une laide queue de poisson. À ce spectacle, pourriez-vous, mes amis, ne pas éclater de rire? Croyez-moi, cher Pison, un tel tableau donnera tout à fait l'image d'un livre dans lequel sera représenté, semblable à des rêves de malades, des figures sans réalité, où les pieds ne s'accorderaient pas avec la tête, où il n'y aurait pas d'unité. Mais direz-vous, peintres et poètes ont toujours eu le droit de tout oser. Je le sais, c'est un droit que nous réclamons pour nous et accordons aux autres. Il ne va pas pourtant jusqu'à permettre l'alliance de la douceur et de la brutalité, l'association des serpents et des oiseaux, des tigres et des moutons. C'est intéressant. Guillaume Durand cite l'art poétique d'Horace, mais trompe sa citation en enlevant toutes les restrictions qui sont en fait la pensée d'Horace. D'autant que ce n'est pas Horace qui parle de la liberté des peintres et des poètes, c'est son interlocuteur à qui il répond qu'il faut la limiter. Donc ce texte est d'autant plus curieux. Alors, Chastel a montré, de son côté, que les restrictions qu'avait oubliées Guillaume Durand reviennent, mais reviennent à la Renaissance. C'était à peu près le contraire exact de notre vision ordinaire de l'art médiéval et de l'art de la Renaissance. Alors, il y a aussi au Moyen-Âge des gens qui se plaignent. Le premier est évidemment Saint Bernard, au XIIe siècle. Du reste, que vient faire dans les cloîtres face aux frères qui lisent cette ridicule monstruosité, cette étonnante beauté difforme et cette belle difformité? Que viennent faire ces singimondes, ces lions cruels, ces centaures monstrueux, ces êtres moitié hommes, ces figures tachetées, tigres tachetées, ces chevaliers au combat, ces chasseurs selon du corps? 75 ans après, l'auteur anonyme du Pictor Incarniné reprend en effet les mêmes, le même discours. Pourquoi résumer beaucoup de choses en peu de mots? Est-il décent, dit-il, est-il fructueux de chercher du regard autour de l'autel de Dieu Déjà, il y a deux têtes, quatre lions possédant une seule tête, des sagittaires, des acéphales qui grognent, la chimère logique telle qu'on l'imagine, le renard de la fable et des combats de coqs, des singes flûtistes et l'âne à la lyre de Boès. Mais ces fantaisies illusoires ont été progressivement introduites par la néfaste présomption des peintres que le sérieux ecclésiastique n'aurait jamais dû accepter en tous ces lieux aussi longtemps. Or, ils ont bien accepté ce qu'ils ne cessent de tolérer avec une endurance répréhensible. Eh bien, leurs protestations étaient vaines. L'une des figures qui choquent tellement Horace, vous l'avez reconnu, un beau buste de femme se terminerait en une laide queue de poisson. Or, ça existe dans l'art antique, hein, c'est la tritone, le triton ou le tritone, existe dans l'art antique. Mais c'est dans l'art médiéval que ce motif est le plus récurrent depuis le XIe siècle, et de manière constante, alors que le motif n'a aucune référence littéraire. Ce que j'en déduis, c'est qu'il s'agit d'un pied de nez à Horace et d'une affirmation de la liberté de l'artiste.